On va donner la parole à Christelle Grenier-Torres, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Torres, oui. Donc, qui va nous parler de l'identité genrée au cœur des transformations sociales.
Alors, d'une part, difficile de prendre la parole après Déborah, parce que j'ai trouvé sa communication passionnante et en même temps assez bouleversante, voilà, sur ces violences-là. Alors, en venant ici, je voulais mieux comprendre comment la santé publique, les sciences médicales et sociales pouvaient travailler ensemble et pouvaient nous permettre d'accéder à une compréhension plus complète des différentes logiques qui sont à l'œuvre et qui participent à construire ces situations à haut risque de mortalité maternelle. Or, j'avoue que jusqu'à présent, j'ai beaucoup appris des interventions précédentes. On a vu jusqu'à présent des événements qui peuvent jalonner un itinéraire reproductif. Pour ma part, je vais me recentrer sur la mortalité maternelle. Alors, dans cette communication, je ne vais pas vous parler du rapport de genre, enfin, en tout cas, uniquement du rapport de genre, parce que la mortalité maternelle ne relève pas que de la variable genre, mais se donne plutôt à voir comme un enjeu sanitaire et social au carrefour de multiples logiques. Je me suis intéressée plus particulièrement au Sénégal, à Dakar, mais ma présentation parlera plus de l'Afrique subsaharienne en général. Alors, de manière assez brève, pour ne pas être redondante, quelques constats, on l'a vu, il ne suffit pas qu'il y ait transfert de techniques pour réduire la mortalité maternelle. Il ne suffit pas que le niveau de ressources d'un pays et le niveau de développement, n'expliquent pas seuls ces ratios élevés de mortalité maternelle. On le sait maintenant, et notamment à travers l'enquête MOMA, que la valeur prédictive des facteurs de risque classiquement recherchés lors des CPN était très faible et que la notion de grossesse à risque n'a pas d'opérationnalité. D'où la priorité donnée aux soins obstétricaux et néonatales d'urgence, les SONU, pour que toute femme puisse avoir accès à du personnel qualifié et à un environnement favorable afin de prévenir les décès. Alors, une fois une série de dysfonctionnements mis à jour par les outils de la santé publique, il y a, me semble-t-il, et je dirais « nous semble-t-il » puisque nous sommes là, nécessité d'associer les sciences sociales comme l'anthropologie ou la sociologie pour comprendre les processus sociaux qui participent à construire des situations à haut risque de mortalité maternelle. En découvrant les travaux réalisés sur ce problème majeur de santé publique, je me suis demandé quelle était la marge d'autonomie dont disposaient les femmes pour construire leur expérience reproductive et là en particulier leur expérience autour de la grossesse, de l'accouchement et de la période postpartum. Alors, ne pouvant pas isoler ces moments clés de leur itinéraire reproductif et plus largement de leur vie, cela demande de considérer plus largement les situations de vie dans lesquelles les femmes sont. Par situation de vie, j'entends la résultante des contraintes avec lesquelles elles doivent composer de tout ordre, qu'elles soient d'origine économique, politique, culturelle, sanitaire, et des ressources dont elles disposent. Donc se pose ici la question des marges d'autonomie dont disposent les femmes pour faire leurs choix, pour organiser au mieux le vécu de leur expérience reproductive. Et quand je dis au mieux, c'est-à-dire ne pas s'exposer, par exemple, à une situation à haut risque de mortalité maternelle. Dans les interventions précédentes, on a vu ce qui se passait au niveau de la planification, des carrières contraceptives, de la durée de la vie génésique, de la séduction et de la sexualité. L'objectif de ma communication est d'élargir le regard pour identifier et comprendre les différentes logiques sociales, culturelles, genrées, géographiques, économiques et politiques qui participent à construire l'itinéraire reproductif des femmes et à définir des situations de vulnérabilité auxquelles elles sont exposées face au risque de mortalité maternelle. Me concentrant sur le Sénégal, qui, tout en ayant connu une baisse non négligeable du taux de mortalité maternelle, a quand même continué à enregistrer un taux élevé, on pose la question de la mortalité maternelle dans un contexte de changement important dans lequel est engagée une société africaine.
Christelle, excuse-moi, deux petites secondes. En fait, on demande juste si tu peux lire un peu plus lentement pour les traducteurs.
Pardon, voilà. Je vais plus lentement.
Merci à toi.
Alors, ce changement, on peut l'envisager en partant d'un point de vue particulièrement révélateur, celui de la dynamique des rapports hommes-femmes, du rapport de genre. Parce que finalement, traiter de la mortalité maternelle, c'est traiter du corps des femmes qui est aux prises avec des obligations au sein des sociétés dans lesquelles elles sont, et notamment celle de procréer. Obligation qui reste forte à l'heure actuelle en Afrique subsaharienne, on l'a vu précédemment. Cette exigence de procréation peut exposer certaines femmes à un haut risque de mortalité maternelle pour de multiples raisons, comme celles qui sont multipares, celles présentant un espace intergénésique de moins de 2 ans, celles ayant un antécédent de moins de 2 avortements, celles qui n'ont pas accès à des structures médicales adéquates, etc. Cette exigence de la procréation pose la question de la liberté des femmes à choisir si elles veulent ou non enfanter, sans faire l'objet de sanctions sociales. L'expérience des femmes, et notamment à travers une étude menée en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, témoignent de cette difficulté à être une femme sans enfant. La femme qui n'enfante pas peut se retrouver en perte de repères sexués qui lui assigne sa place, et cela peut aller jusqu'à la dénégation de son identité biologique. Tu n'as pas d'enfant, je ne te reconnais pas en tant que femme. Le problème de la mortalité maternelle soulève, selon nous, comme celui du sida, la question de l'enjeu que peut constituer aujourd'hui, pour les femmes, une plus grande maîtrise sur leur corps, sur leur sexualité et sur leur capacité reproductive. Les modalités qui entourent le vécu de ces différentes dimensions de leur existence se révèlent être différentes selon leur marge d'autonomie dont elles disposent. Alors, ce questionnement abordé dans un contexte de forte mortalité maternelle est d'autant plus intéressant qu'il met en jeu la position sociale des femmes, leur relation avec les hommes, leur sexualité et fonction procréatrice. Il questionne dans un contexte plus large de changement social la renégociation des rapports sociaux de sexe. Finalement, la mortalité maternelle est appréhendée ici comme un problème en soi auquel les sciences sociales, en collaboration avec les sciences et les disciplines médicales, peuvent fournir des éléments de réponse, mais également comme un révélateur de dynamique sociale rendu plus visible du fait de ce problème majeur qu'est la mortalité maternelle. Je m'explique. La confrontation des femmes au risque de mortalité maternelle peut permettre de mieux comprendre les différentes logiques à l'œuvre qui entourent l'évolution des rapports des femmes à la procréation et à la sexualité, au rapport aux hommes, et de mesurer leur autonomie dans la construction de leur expérience de vie reproductive et plus largement dans leur expérience de vie. Cette confrontation au risque de la mortalité maternelle peut nous permettre de mieux comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les femmes de cette région, Afrique subsaharienne, peuvent renégocier leur position sociale. Le contexte d'un haut taux de mortalité maternelle joue à cet égard un rôle de révélateur. Et comment elles peuvent se permettre de poser des revendications de toute premier ordre, comme celle de ne pas être exposées à un risque important de mortalité maternelle du fait de logiques plurielles. Je pense à celle économique, mais aussi à celle de genre, à celle culturelle. À l'instar de ce qui a été observé en Afrique de l'Ouest à propos de l'épidémie du sida, on peut se demander si on va observer des synergies fortes qui peuvent se créer par la présence de ce haut taux de mortalité maternelle et des dynamiques de portée plus générale qui font évoluer les aspirations des femmes à une redéfinition de leur position sociale et à une redéfinition du rapport homme-femme avec une plus grande autonomie dans les décisions concernant leur parcours reproductif. Ce qui vient à reposer la question des marges d'autonomie des femmes et des nouvelles négociations entre genres. Finalement, où en sommes-nous de l'espace où les femmes peuvent décider pour elles-mêmes, où elles peuvent faire entendre leur liberté reproductive, c'est-à-dire qu'elles décident de faire un enfant ou pas, du rythme des grossesses, des modalités d'accouchement? Alors une question, les femmes, actrices de leur propre parcours reproductif? L'absence de mobilisation autour de ce problème de la mortalité maternelle pendant longtemps nous questionne et nous pousse à nous demander pourquoi finalement un si long silence? L'idée, quelque peu cynique, mais qui peut être entendue et reçue au vu de la différence de valeur, parfois, accordée aux hommes et aux femmes dans certaines sociétés, est que la mortalité maternelle ne touche que les femmes, et du coup qu'elle ne mobilise pas la communauté dans son entièreté. En fait, c'est à la lumière des processus à l'œuvre qui créent une dynamique de reproduction sociale particulière, singulière à chaque société, qu'il faut interroger les mécanismes organisateurs de cette asymétrie de genre et ainsi identifier les leviers sur lesquels il faut appuyer pour enrayer la mise en place de situations à risque, ici comme l'exposition à un risque de mortalité maternelle. Cette asymétrie de genre peut avoir comme implication une plus grande exposition à un risque, ici la mortalité maternelle, mais aussi une implication dans la décision de mettre en place des politiques pour résoudre le problème. Finalement, la mortalité maternelle, en même temps qu'elle est un phénomène biologique, et participe également d'une construction sociale. Ce phénomène biologique fait l'objet d'une appropriation sociale et culturelle dans sa définition, dans son acceptation, dans les modalités de fonctionnement, dans la perception de ce phénomène, mais aussi dans les modalités de gestion du problème de santé. Alors on peut se poser une question. Est-ce qu'on assiste à une inégalité de genre qui se répercute dans les politiques mises en place pour régler ou tout au moins réguler le problème, qui se répercute également dans le niveau de mobilisation de la société civile pour rendre visible le problème. Cela, bien sûr, s'entrecroise avec d'autres logiques propres à d'autres domaines, comme celui économique. On le sait, dans un contexte de pauvreté, les inégalités, quelle que soit leur nature, inégalités de genre, de santé, etc., sont renforcées. On assiste donc parfois à des combinaisons de variables différentes à l'œuvre au sein de l'expérience reproductive et qui peuvent exposer une femme à un faux risque de mortalité maternelle. La mortalité maternelle se crée au carrefour de multiples logiques au sein d'un système combinatoire de variables qui, selon sa configuration, positionnera la femme dans une plus ou moins grande situation de vulnérabilité au risque de mortalité maternelle. Prenons un exemple concret d'une combinaison de variables défavorables à la capacité de la femme à décider de la réponse à avoir face à une situation d'urgence en termes de risque de mortalité maternelle. En même temps que de plus en plus de femmes deviennent chefs de famille, et là je fais un rappel aux études de Jeanne Bissillat, en même temps que donc de plus en plus de femmes deviennent chefs de famille, comment peut-on continuer à observer une liberté limitée à décider et à pouvoir mobiliser l'argent pour, si bien sûr elles en disposent, répondre aux soins qui peuvent leur être nécessaires, voire indispensables à leur survie en termes de risque de mortalité maternelle. En fait, plus que de penser des logiques superposées, il faut envisager des combinaisons de variables qui viennent déterminer une plus ou moins grande vulnérabilité face à une situation à risque. Comme par exemple une logique économique combinée à une logique de genre défavorable à la femme. La pauvreté est une des variables importantes dans ce haut taux de mortalité matérielle et combinée à une logique de genre où la marge de décision des femmes est parfois vraiment très mince, cela propose des conditions propices à une issue favorable en termes de survie pour la femme lors de complications pendant la grossesse, l'accouchement ou après, durant la phase postpartum. Dans les familles qui sont dans une précarité économique, ce choix autour de l'aide à la survie de la femme peut venir s'intégrer dans une vision plus globale de la santé économique de la famille. La femme peut être sacrifiée en apportant par l'argent nécessaire pour couvrir les frais de santé au nom d'une logique de survie économique ou d'un moindre endettement de la famille ou pour ne pas retomber dans un cycle d'endettement de la famille. Dans un tel système de contraintes, de quelle marge de manœuvre la femme dispose-t-elle pour se sentir actrice de son expérience et pour l'être de manière effective, pour être finalement celle qui décidera? Dans l'exemple concret du besoin d'argent pour payer les frais médicaux, si oui ou non, on mobilisera l'argent pour sa survie. C'est donc dans des espaces de mince négociation ou renégociation qui mettent en jeu un ensemble de variables que les femmes peuvent être confrontées à ce risque de mortalité maternelle. Au vu de ces premiers constats, posons-nous une série de questions. Quelles sont les combinaisons de variables qui déterminent un risque plus important de mortalité maternelle chez la femme et celle qui le diminue? Comment et à partir de quelle logique se construisent les situations à risque de mortalité maternelle? Quels sont les types de situations de vie où les femmes sont plus exposées à ce risque de mortalité maternelle? On peut supposer, et cela sera une hypothèse centrale d'un travail à venir, que selon les situations de vie des femmes, c'est-à-dire selon leurs conditions de vie, c'est-à-dire les contraintes dont elles sont tributaires et les ressources dont elles disposent, les femmes sont plus ou moins dans une situation de vulnérabilité au risque de mortalité maternelle. Nous sommes face à un système de logique complexe présent au sein de sociétés qui témoigne d'un contexte socio-économique, culturel, particulier, social, propre à chacune des sociétés. C'est ainsi que les expériences reproductives des femmes doivent être considérées comme singulières, parce que propres à chacune, et en même temps collectives, parce qu'évoluant dans ce même contexte socio-économique, culturel, politique et social. L'analyse en termes de situation de vie nous invite à considérer la pluralité des conditions de vie des femmes. Certaines témoignent d'une grande autonomie où elles construisent leur expérience de vie reproductive comme elles le souhaitent. D'autres se retrouvent dépossédées de leur capacité décisionnelle et ne font que subir les choix d'autres personnes. C'est dans des situations de vie que la mortalité maternelle, nous semble-t-il, devrait être étudiée et donc tenir compte de la pluralité des conditions de vie des femmes et de leur capacité à pouvoir faire infléchir les contraintes présentes dans leur vie. Il faudrait finalement arriver à trouver un juste équilibre entre la singularité de chaque parcours de vie et en même temps la dimension collective dans laquelle cette singularité se construit. Je vous remercie.